terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Mon invité en face de moi, fondatrice de Humanet. Je dis bonjour à Mélissa Consulier. Bonjour Mélissa. Mélissa est ingénieure de recherche en neurosciences à l'Université d'Oxford, ensuite diplômée d'HEC Paris. C'est dans le secteur de la technologie que tu te spécialises dans les expériences numériques pendant quasiment 11 ans. Aujourd'hui, tu as, experte en cyberpsychologie. Exactement. Et tu es la fondatrice d'Humanet, donc qui vulgarise les connaissances sur le cerveau en interaction avec la technologie. Une fois que j'ai dit ça, on va essayer de dépouiller tout ça pour le dire en français simple. La première fois qu'on s'est vu, pour qu'on va partager nos vies privées là avec les gens qui nous écoutent, tu m'as parlé Internet, tu m'as parlé injustice sociale ou justice sociale avec Internet, tu m'as parlé biais cognitif. Et à la fin de quoi, quasiment 45 minutes où on est resté alors qu'on voulait juste se voir pour 15 minutes, c'était dans le cadre du C2 Montréal. Ce que j'ai compris, c'est Cyril, Internet, ce n'est pas juste ce qu'on voit. Est-ce que je résume bien nos discussions?
Oui, absolument. Aujourd'hui, on a une utilisation d'Internet et des technologies associées, notamment l'intelligence artificielle, qui sont diffusées partout. Et bien sûr, on a des alertes, notamment sur le temps d'écran, notamment aussi sur le développement d'intelligence artificielle au regard de l'intelligence humaine, genre... elle va dépasser l'humain. Donc il y a des alertes par-ci et là, et elles sont d'une certaine manière légitimes. Je crois aujourd'hui qu'au regard de l'impact des technologies sur les humains et sur la société, c'est important de comprendre les biais cognitifs qui sont associés à la technologie. C'est-à-dire que non, Internet, c'est pas juste du temps d'écran. Et il y a déjà des effets, des impacts et des manières de combattre ces impacts qui, à mon sens, au regard de mon expérience, notamment dans le jeu vidéo, notamment dans d'autres secteurs technologiques où on a ces connaissances sur le cerveau en ligne, mais elles ne sont pas déployées pour aider les gens. Et c'est pour ça que j'ai fondé Humanet, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un enjeu de justice sociale.
Dans quel sens, Mélissa? Dans quel sens c'est un enjeu de justice sociale?
Eh bien, quand on regarde les effets du cerveau sur Internet, et notamment des biais cognitifs, c'est-à-dire les biais cognitifs, c'est des raccourcis que prend le cerveau. Ces raccourcis, ils existent déjà dans la vie courante, d'accord? C'est-à-dire que quand le cerveau a trop d'informations, le cerveau, il se base sur des règles. Et les biais cognitifs, à la base, c'est une espèce de stratégie d'économie du cerveau pour nous mener au mieux, aux bonnes décisions, au bon jugement, sans dépenser trop d'énergie. Donc ça, c'est une chose. Ces biais-là, lorsqu'on va sur Internet, ils sont exponentialisés parce qu'on a une saturation d'informations. Donc le cerveau a encore plus d'informations, donc il va encore plus se baser sur ces biais. Et puis par ailleurs, on a des biais qui sont amenés, et ça on le sait déjà, par les algorithmes, etc., qui vont donc non seulement potentialiser les biais par le volume d'informations, mais aussi par les algorithmes aussi qui se basent sur ce qu'on appelle des préférences, mais du coup qui elles-mêmes sont déjà des biais. Un exemple, il y a des études qui ont été publiées, notamment par qui ont été publiées dans des revues scientifiques telles que Science, qui montrent que les fake news, c'est-à-dire la désinformation aujourd'hui, qui est notamment due à des biais cognitifs, enfin dont l'adhésion et la viralité est potentialisée par les biais cognitifs. Ce que ça veut dire, c'est que c'est encore plus facile de faire croire à des fake news et de les diffuser parce qu'il y a des biais. Eh bien, aujourd'hui, il y a tout un corps de scientifiques qui ont été capables de montrer que les fake news étaient en tout cas plus perméables à des partisans conservateurs.
Ok. On pourrait dire l'inverse. Eux, de leur côté, ils peuvent aussi dire que les fake news sont plus perméables à... on va pas rentrer dans un domaine politique, là, mais ils seraient plus favorables, du moins, ils seraient plus présents chez les partisans conservateurs?
En fait, les fake news, en fait, c'est les biais d'interprétation liés aux fake news. On a le biais d'illusion de vérité, c'est-à-dire le fait que quand on répète une information, même si elle est fausse, à force de le répéter, en fait, on l'accepte comme vraie.
Oui.
Même si au départ, on la savait fausse. On a aussi les biais de confirmation, c'est-à-dire quand on a des informations qui nous confortent dans des idées qu'on a, on va avoir tendance à y adhérer, en tout cas à conserver ces idées-là. Et je dis conserver parce qu'effectivement, on peut avoir certaines idées, notamment ce qu'on appelle des amalgames, qui peuvent être faits, qui sont, quand on parle d'amalgame, on parle de biais cognitifs.
Oui. Hein,
c'est des biais d'association, c'est des biais de représentativité, c'est des biais de disponibilité. Là, on parle de la manière dont, parfois, on juge ou on généralise sur des faits à partir d'anecdotes. On a forcément un meilleur terrain, si j'ose dire, pour renforcer les amalgames dans des groupes d'idées qui sont plus conservatrices. Mmh. D'ailleurs, quand on dit conservatrice, au niveau cognitif, on est déjà tenté d'y associer des biais.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc moi, okay. je vais essayer de pas faire l'amalgame. Et c'est pour ça que je me réfère à des études scientifiques. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est dans un excellent article de Science. C'est vraiment, j'encourage les gens qui nous écoutent à aller voir Science. Believability Fake News pour trouver ces études-là, mais qui, dans ces études qui sont donc scientifiques, on a effectivement une petite alerte sur le supply, c'est-à-dire l'approvisionnement de fake news et de ces idées par rapport à la manière dont elles peuvent encourager non seulement des gens à croire, à adhérer, à diffuser, mais aussi à orienter la population sur de la désinformation et l'influencer d'une manière qui n'est pas juste, puisqu'on base sur une désinformation. Donc effectivement, c'est important. Et là, ça devient un enjeu de justice sociale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les biais cognitifs qui existent et qui sont potentialisés sur Internet, ils ne sont pas enseignés. On n'apprend pas à déceler des fake news.
Okay.
On a des ateliers dans des écoles, etc. Mais la plupart du temps, quand les élèves existent déjà sur Internet, le développement de la pensée critique aujourd'hui, c'est un développement d'une compétence qui est essentielle. Elle est de plus en plus valorisée aussi dans l'environnement professionnel. Mmh. Et ça me semble aussi important qu'apprendre à lire. Et quand je dis ça, ça veut dire que je crois beaucoup au potentiel de considérer ces enseignements avec le même volume, avec la même durée au travers de la scolarité que la lecture.
Est-ce que je dois comprendre que une grande présence ou une extrême présence devant l'écran, devant Internet, les lectures qu'on fait sur Internet, réduit la pensée critique pour si on n'y fait pas attention? Vu qu'on ne connaît pas, on n'arrive pas à déceler les biais cognitifs, est-ce que c'est ça que ça veut dire?
C'est aussi ça que ça veut dire, oui. Mm-hmm. Parce que, par exemple, les personnes de notre génération, on a eu l'occasion de développer d'une certaine manière notre pensée critique, mm-hmm. qui se développe notamment avec la maturation donc, du néocortex, hein, donc cette partie superficielle du cerveau, celle qu'on voit avec tous les plis. Donc là, je simplifie, mais d'une certaine manière, la pensée critique aussi se développe avec la maturation donc, du cerveau. Et puis nous, on a eu la chance de développer ça sans être soumis à des informations ultra biaisées sur Internet. Aujourd'hui, les plus jeunes, ils naissent avec ça. Et donc, en fait, ils sont amenés dans un environnement qui est déjà biaisé, soumis à leurs propres biais, qui sont renforcés par l'exposition de contenu, sans qu'on leur apprenne. Donc, d'une certaine manière, leur pensée critique, et la nôtre aussi parfois, hein, elle est prise en otage parfois par Internet avec tous ces biais.
Mais quel est de manière concrète, le lien entre Internet et la justice sociale ou l'injustice sociale? Concrètement, c'est quoi?
Concrètement,
qu'est-ce qui te fait peur, t'inquiète? pourquoi tu, parce que c'est ça qui a fondé Humanet,
oui. Hein,
humain, et puis le net, c'est mm-hmm. ça qui a fondé Humanet. Qu'est-ce qui te, voilà, c'est ça. Où se situent les problèmes de justice? On a même, on pourrait même dire d'injustice sociale.
Ben, aujourd'hui, on voit très bien, que, pour faire avancer à la société, et notamment quand on parle d'équité, diversité, inclusion, etc., on voit à quel point déjà les biais cognitifs existants ont, au travers de l'histoire, évidemment, à travers des périodes très sombres notamment, mais on voit aujourd'hui que les biais cognitifs qui sont présents aujourd'hui sont déjà, à l'origine, participent fortement à des questions de justice sociale.
Okay.
Donc ça, c'est une, les questions de discrimination, etc., c'est des biais cognitifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de combattre les biais inconscients. On parle souvent de ça au travers de mesures, au travers d'initiatives, parfois de politiques, qui vont justement rééquilibrer la justice sociale qu'on reconnaît défaillante d'une certaine mesure à cause de ces biais. Si ces biais sont renforcés par Internet, mais qu'on n'apprend pas aux gens à se défaire de ces biais, les effets sur la justice sociale vont être démultipliés. Et puis on parle aussi des idées, de la manière dont on considère les uns les autres. Les études montrent aussi que, au travers de la désinformation, on a des communautés qui vont se polariser, etc. Donc quand on parle de justice, on parle pas nécessairement de mettre en valeur une identité par rapport à une autre, mais simplement de se rejoindre entre identités autour d'un dialogue qui n'est pas entamé, qui n'est pas on va dire endommagé par la polarisation favorisée par la désinformation. Par ailleurs, on a les enjeux de cybersécurité.
Okay.
D'accord ? Les enjeux de cybersécurité, c'est simple, ça veut dire que, bon, on a 95% des attaques qui sont tracées à l'erreur humaine aujourd'hui. Et malheureusement, on propose des solutions techniques. Alors attention, c'est super et il en faut absolument. Je dis simplement que est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas centrer des formations sur l'erreur humaine? Parce qu'on a des entrepreneurs, on a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des solutions techniques, mais qui, en apprenant comment ils sont manipulés par les cybercriminels, notamment au regard des biais cognitifs, pourraient être plus, on va dire, protégés. Simplement par se rendre compte. C'est comme les cybercriminels, ils utilisent ce qu'on appelle du social engineering. C'est tout bonnement la manipulation des gens. Bon, si on apprend aux gens comment ça marche, ça, la manipulation, par les biais cognitifs, bon, bah, quand on nous apprend un tour de magie, entre guillemets, c'est un peu plus difficile d'y croire quand on nous le refait, de tomber, entre guillemets, dans le piège. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, qu'il s'agisse de grands groupes ou qu'il s'agisse des personnes, ce sont les plus petits qui ont le plus à perdre.
Oui.
Parce que c'est les plus petits qui sont les moins protégés. Parce que c'est les plus petits
qui
sont moins outillés, moins formés, qui ont le plus à risquer aussi. Si je suis une petite entreprise, bah oui, j'ai besoin qu'on m'aide si j'ai une cyberattaque, mais ça veut dire que je remets en cause ma réputation de manière beaucoup plus forte. Et même pour les grands groupes, on a besoin de croire en nos institutions pour garder une certaine stabilité sociale. Pareil pour les pays. On a besoin de former les plus petits pays aux enjeux de cybersécurité pour que des partenariats qui sont portés par des plus grandes richesses ne soient pas entamés par la confiance qui devient endommagée s'il y a des cyberattaques. Donc même sur la cybersécurité, finalement, les questions de biais cognitifs au regard de la technologie, c'est un enjeu de justice sociale.
À t'entendre, les biais cognitifs sont pas le seul, mais l'un des gros dangers d'Internet. Est-ce que, je pense que je t'avais posé cette question lorsqu'on s'est vu et qu'on en a parlé, est-ce que moins d'heures d'écran, là je pense aux plus jeunes, est-ce que moins d'heures d'écran est une solution? Tu m'avais donné une réponse, j'aimerais que tu la partages avec les autres. Est-ce que moins d'heures d'écran, c'est une solution?
Je pense que moi, j'en peux plus des heures d'écran, du temps d'écran. Et puis, je passe 10 heures par jour. J'ose imaginer que je ne suis pas une abrutie finie. Par contre, je pense que c'est important d'apprendre à maîtriser. Donc évidemment, 10 heures d'écran pour des tout-petits, c'est trop. On a le système visuel qui se met en place, etc. Et puis, c'est surtout qu'il ne faut pas que ça remplace une interaction avec la famille, des dialogues, justement, qui aussi contribuent au développement de cette pensée critique, de l'argumentation, de toute cette empathie aussi, hein, qui est remise en cause avec Internet par la distance géographique amenée par le numérique. Ça crée aussi une distance émotionnelle. Donc, il y a aussi l'empathie qui est remise en cause. Finalement, le temps d'écran, en soi, à part pour le système visuel, c'est pas le temps d'écran le problème, c'est qu'est-ce qui manque quand il y a du temps d'écran. Si je manque de dialogue avec ma famille, avec mes amis, avec des gens qui sont différents de moi, si je manque d'activités qui contribuent à mon développement cognitif, c'est ça le problème. Le temps d'écran en soi, il veut pas dire grand chose. Je dirais même plus, j'ai beaucoup de compassion pour les parents ou les institutions qui, débordés par la technologie parfois, ont recours à une certaine interdiction ou à une certaine limitation, sur du temps d'écran.
Oui.
Néanmoins, apprendre à maîtriser Internet, c'est pas ne pas utiliser Internet. Je crois que même si ça peut être une solution temporaire, la limitation du temps d'écran, c'est pas une solution qui est pérenne. Ce qui est important, c'est d'apprendre à maîtriser Internet. Ce qui est important, c'est d'apprendre à voir la vérité du faux. Ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre que moi, si j'envoie le énième commentaire négatif à propos d'une personne, ça a un impact. De comprendre le décalage entre l'intention du receveur et l'intention de l'émetteur sur l'effet du receveur. Comprendre ces enjeux-là, ça se comprend aussi en utilisant l'écran, mais il faut apprendre à l'utiliser. Et pour moi, Internet, c'est comme une grande métropole étrangère.
Okay.
C'est-à-dire que, oui, il y a des quartiers dangereux. Oui, c'est important de maîtriser la langue. Il faut apprendre le code de la route. Mais il y a des tas de choses magnifiques à y faire. On peut y passer des heures. Mais il faut apprendre un minimum de règles de sécurité, de bien vivre ensemble, comme toute métropole étrangère.
Mmh. Je te propose, Mélissa, qu'on fasse une pause et puis au retour, je voudrais qu'on parle de solutions parce que il y a sûrement des solutions ou des pistes de solutions. Toi, en tant qu'experte, tu peux nous aider un peu à comprendre ça. On fait une pause puis on en parle après. Voilà, retour en Néo-Québec avec notre invitée Mélissa Cancelier, qui est experte en cyberpsychologie, fondatrice du Manette, qui nous expliquait donc les biais cognitifs sur Internet et évidemment ce que ça pouvait avoir comme conséquence. Et là, j'ai appris encore une nouvelle chose, biais cognitif, on peut voir par biais cognitif des genres de raccourcis du cerveau. Ça, maintenant, je vais être un peu plus savant quand je vais expliquer les choses. Mélissa, je voudrais qu'on parle qu'on parle un peu solution, parce qu'une fois que tu as fait ce constat lié à tes études et tout, tu crées Humanette.
Ouais.
Humanette, quelques mots sur Humanette. C'est quoi?
Alors, Humanette.
Quel est l'objet de cette entreprise?
Alors, Humanette, pour le meilleur de l'humain sur Internet, l'idée, c'est justement de vulgariser, de démocratiser ces connaissances qu'on a sur le cerveau connecté, c'est-à-dire sur ces biais cognitifs qui existent quand on interagit avec la technologie. Et l'objet, en fait, c'est que moi, ça fait...
Je t'arrête tout de suite.
Oui.
Ce que tu viens de dire est tellement scientifiquement scientifique que je me demande, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ou c'est pas une affaire d'experts?
Non. Et en fait, c'est justement l'idée du Manette, c'est que ce soit pas réservé qu'à quelques experts. L'idée, c'est de simplifier les connaissances sur le cerveau en interaction avec la technologie. Cerveau et technologie, en gros, l'idée, c'est de simplifier. Et Humanette, c'est ça le but. Moi, ça fait 11 ans que j'étudie les comportements en ligne chez des gros de la tech. Je l'ai fait dans le jeu vidéo, je l'ai fait un peu en crypto, en auto, etc. Chez de gros acteurs technologiques. Ce dont je me rends compte, c'est que il y a ces connaissances en ce qu'on appelle en cyberpsychologie, c'est-à-dire, en gros, le lien entre la tech et l'impact sur notre cerveau, notre comportement.
Okay.
Et inversement. Je vois ça. Et je me rends compte d'une chose, qu'il y a ces connaissances-là, elles sont disséminées, évidemment, dans les laboratoires spécialisés sur certains champs, ouais, certaines questions, super. Et chez de gros acteurs, notamment technologiques, mais pour la conception que produit. Et là, je me dis, mais c'est fou, parce qu'en fait, ça peut aider les gens.
C'est ça.
Et malheureusement, alors, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup d'experts. Et puis après, il y a aussi une urgence qui s'est manifestée ces dernières années. Clairement, la pandémie et puis ce recours, on va dire, aux technologies connectées en ligne a aussi intensifié cette espèce d'appel, en tout cas, faire de ces connaissances quelque chose qui peut aider les gens et pas simplement les gros acteurs tech comme je l'ai fait en tout cas depuis 11 ans au quotidien. Et donc c'est ça Humanet, c'est pour démocratiser ces connaissances, les rendre disponibles, faciles, accessibles et actionnables.
Et voilà le point central, moi et mon esprit un peu voilà, je vais pas tout dévoiler, mais je vais dire curieux et parfois beaucoup de doutes, avec ce que tu viens de dire. Ces connaissances existent. Tu dis disséminées dans les labos, dans les tout un tas de choses. Ah, est-ce que quelque part les compagnies, les gros joueurs de la technologie ont un intérêt, ça c'est peut-être même parce que je regarde trop de films là, ont un intérêt à ce que ces connaissances ne soient pas à la disposition du public.
Alors, je pourrais dire oui, ce serait facile de dire oui. Je crois que, et pour l'avoir vécu dans de très grosses organisations, même au sein de ces organisations, l'idée, c'est que de ces connaissances-là, on extrait un petit bout très spécifique, juste pour aider à rendre un produit plus facile à utiliser, plus accessible, etc. Donc, finalement, dans l'absolu, oui. Est-ce que c'est fait de manière intentionnelle ? Moi, je ne l'ai pas vécu. Et parce qu'en fait, même au sein d'une organisation, c'est disséminé. Et je le sais, puisque je vois même que, même dans des organisations qui, on pourrait dire, oh là là, ces connaissances-là sont utilisées, on a des personnes dans ces organisations qui, parfois, ont une utilisation, on va dire, des technologies, qui regardent, au regard des biais, des connaissances sur le cerveau, ne seraient pas nécessairement indiquées, recommandées. Oui. Donc, non. Humanet, ce que ça permet, c'est de rassembler ces connaissances pour y faire du sens dans la vie courante. Et c'est ça, en fait, qui me semble manquer aujourd'hui à la table. C'est ça qui me semble manquer aujourd'hui à notre société. Et tout simplement, à travers des connaissances que ce soit de la famille, des amis qui viennent me poser des tas de questions. « Oh là là, mais moi j'ai ce problème-là. » Mon enfant est complètement dingue des jeux vidéo, c'est difficile d'avoir un dialogue. Oh, mais qu'est-ce que tu penses de mettre les photos des enfants sur les réseaux ? Est-ce que en maillot de bain ou alors que pas en maillot de bain ou pas du tout ? J'ai des questions des parents, d'amis qui me posent.
Réponds quoi à ces questions-là, justement? Et parce que là, ceux qui nous écoutent, là, j'imagine, c'est ça, qu'est-ce que tu réponds?
Au début, j'ai essayé de les rediriger. Okay. Je me suis dit, je vais trouver sur Internet quelque chose qui rassemble tout de manière simple. Puis je ne trouvais pas.
Ok.
Ou alors, je trouvais des articles un peu pop du style « le temps d'écran ».
Oui.
Ou « qu'est-ce que je fais de ça ?» Ce n'est pas actionnable. Les gens se sentent sous l'emprise et n'ont pas les moyens de comprendre ce qui se passe. On leur dit juste quoi faire, quoi pas faire. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça ? Donc les gens culpabilisent. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'à force de simplifier pour leur donner des recommandations, finalement, j'avais accumulé énormément de connaissances que j'ai quand même sanctionnées par correction par un diplôme professionnel en cyberpsychologie. Mais à travers mes études en neurosciences, ma carrière en tant qu'ingénieur de recherche, notamment à Oxford, puis ces 11 ans en tant que spécialiste expérience numérique, évidemment que j'ai accumulé des connaissances particulières. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que les gros de la tech, dans l'absolu, on pourra dire évidemment que ça les sert. D'autres, mais par ailleurs, ils n'ont pas 40 000 experts non plus. Moi, ça fait 11 ans que je ne cherche pas de travail. Et je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'experts. L'idée, c'est de me dire, mais si moi, je ne fais rien, je pourrais blâmer personne.
Personne, tout à fait.
Ouais.
Et je t'entends, pour terminer, je t'entends et je me dis, je vois à quel point l'éducation, mais pas seulement l'éducation à la maison, mais même l'instruction, tu vois, tu as tes années à Oxford, tu as tes années d'études et tout, à quel point, plus on a un niveau quand même d'éducation élevé,
ouais,
mieux on comprend ça.
Absolument.
Et donc, on est beaucoup plus sujet à être manipulable quand on est démuni. Du moins, on fait partie des classes sociales les moins,
absolument,
les moins nantis.
Absolument.
Et c'est ça le combat.
Et là aussi, tu vois, là aussi, on a un enjeu de justice sociale énorme.
Ouais.
Parce que même aujourd'hui, si on prend des ateliers d'expérience numérique, etc., mais qui va avoir les moyens de recourir à certains experts, à des ateliers pédagogiques, à des petits cours en plus du programme scolaire qui pourra déjà prendre en compte certains de ces aspects-là, même si, à mon sens, il en faudra encore plus. Mais ça va être les personnes qui ont le plus de moyens. Et donc, finalement, là aussi, on a un enjeu de justice sociale. C'est pour ça qu'avec Humanet, l'idée, quand on en parlait, c'est « Ah là là, mais du coup, ça va être... C'est quand même quelque chose de scientifique. » Ouais. Alors moi, je le suis. J'essaye de démocratiser. C'est-à-dire, je le fais de manière très, très pédagogique. Je m'adapte au niveau de connaissance de mon audience, que ce soit en école, que ce soit en entreprise. Je ne vais pas que enseigner à des personnes, faire des formations que pour le secteur des jeux vidéo, on s'entend bien. L'idée, c'est de démocratiser tout ça.
Merci beaucoup, Mélissa Cancelier. Merci d'être venue nous parler de ça. Je rappelle donc fondatrice d'Humanet. Mon nom est Cyril Ekwala.
Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekwala et son équipe. Né au Québec, tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.